MCITV vous présente Bonjour chez vous, l'émission qui aborde tous les sujets importants à la lumière de la parole de Dieu. Retrouvez tout de suite Yveline et son équipe de chroniqueurs.
Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, on va parler d'une expression bien connue. Que signifie donner sa vie à Jésus ? On aime le dire, on aime poser la question, on aime raconter « voici ce qui s'est passé quand j'ai donné ma vie à Jésus ». Mais qu'est-ce que ça signifie ? Qu'est-ce qui se passe ? Et qu'est-ce que c'est réellement donner sa vie à Jésus ? On en parle aujourd'hui avec Aurélie et notre invité de la semaine, Yanis Gauthier. Salut Yanis !
Bonjour Yveline.
Salut, ça va toujours ?
Ça va très fort.
Ça va toujours très fort avec
oui,
toi.
Toujours. Bonjour Aurélie.
Bonjour.
Salut Aurélie.
C'est un petit
grands,
bonjour. Hein.
Des grandes salutations aujourd'hui.
Oui.
Aurélie, elle est toute en discrétion Aurélie, oui. C'est pour ça. C'est
efficace mais facile.
Aujourd'hui, on parle de ce que signifie donner sa vie à Jésus. Et Yanis, dans quelques minutes, pas tout de suite, mais en milieu d'émission, on va dire, tu vas faire une rubrique réponse d'experts et tu vas justement nous expliquer ce que signifie renoncer à sa vie et suivre Jésus selon Matthieu 16, 24. On a déjà tous entendu ce verset et donc tu vas nous en parler tout à l'heure.
C'est cela, oui.
C'est cela, oui. Que vous êtes solennel aujourd'hui, une émission très solennelle. Donc on va voir ce qui s'est réellement passé, ce que ça implique de donner sa vie à Jésus et on en commence tout de suite en en parlant dans la pensée du jour.
Quand on parle de donner sa vie à Jésus, ben on parle de la nouvelle naissance. C'est le processus par lequel une personne entend la parole de Dieu, cette parole touche son cœur, cette personne est poussée comme ça à accepter Jésus comme son Seigneur, comme son Sauveur et cette personne décide de vivre pour lui. Il y a plusieurs personnes qui ont été touchées par la parole de Dieu. Elles ont répondu à l'appel en faisant une prière, mais elles pensent que ça s'arrête là. La prière, c'est très bien, parce que la Bible nous dit dans Romains 10, au verset 9, que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé, parce que c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Donc, dès l'instant où vous avez confessé le Seigneur de votre bouche, vous avez fait cette prière, votre cœur a été touché, oui, vous avez donné votre vie à Jésus, c'est super. Mais ça ne s'arrête pas là. Il y a un engagement de cœur qui doit pouvoir se faire pour vivre complètement et pleinement ce salut. J'aimerais faire une différence entre deux catégories de personnes. Il y a des personnes qui sont bien, les personnes qui veulent bien être chrétiennes, et des personnes qui sont engagées vis-à-vis du Seigneur. Une personne qui veut bien être chrétienne, mais c'est une personne, oui, qui a fait la prière du salut, elle a accepté Jésus-Christ et elle est prête à faire des choses dans ce sens. C'est déjà très bien, mais cette personne n'est pas encore arrivée au stade d'une personne engagée, qui est une personne qui est dévouée corps et âme pour Dieu. Lorsqu'on regarde les disciples dans la Bible, ils étaient dévoués corps et âme pour le Seigneur. C'est des personnes qui sont prêtes à faire des ajustements nécessaires, des grands sacrifices, qui sont prêts à tout, et c'est des personnes pour qui c'est Jésus-Christ ou rien, tout simplement. Donc là, on parle des personnes engagées. Vous avez peut-être donné votre vie à Jésus et vous voyez que vous aimez Dieu, vous aimez bien aller à l'église, vous aimez bien faire ces choses, mais ce qui serait encore mieux, c'est déjà un bon pas, mais ce qui serait mieux, c'est de commencer à vivre cette vie où on se dit « Moi, je suis engagé pour le Seigneur. Je veux vivre pour Dieu. » Je n'ai pas juste eu à répéter une prière. Ma vie de chrétien ne s'arrête pas juste le dimanche, mais c'est une vie où je suis engagée pour faire plaisir à Dieu, pour faire tout ce que le Seigneur me demande de faire. L'engagement, ça doit se voir à différents niveaux parce qu'on dit qu'on accepte Jésus comme son Seigneur et comme son Sauveur. Donc, on doit être engagé par rapport au fait qu'on a vraiment été sauvé par Dieu. Pour moi, ça signifie quoi ? Ça signifie tout simplement déjà de reconnaître qu'on était pécheurs, qu'on a vécu loin de lui et que lui, dans sa grâce, il nous a sauvés. Et c'est de reconnaître notre besoin de lui. Tu reconnais à quel point, s'il n'est pas là, tu es perdu. Tu reconnais qu'à la croix, Jésus-Christ, il a tout accompli. Il est la solution à tous les défis, tous les problèmes de ta vie. Et si jamais, et moi, c'est ça que j'appelle l'engagement, si jamais il y a un défi, il y a quelque chose qui vient pour s'opposer à cette vérité de l'Évangile, tu dois pouvoir te tenir devant cette chose et dire, parce que moi, ma vie appartient à Jésus, tu n'as pas le droit d'être là. C'est ça l'engagement. Et c'est pareil aussi pour le côté Seigneur. Quand tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur, tu as accepté qu'il devienne le propriétaire exclusif de ta vie. En fait, tu as accepté que le Saint-Esprit devient ton boss. Tu as accepté que ta volonté ne compte plus et que c'est sa volonté à lui qui compte. Et s'il y a des sacrifices que cela implique, ça implique renoncer à soi, renoncer au péché, renoncer au mal, renoncer à plusieurs choses. Ben, tu es prêt à te lever et dire « Oui, je veux renoncer parce que je suis engagée vis-à-vis de Dieu. »
Amen. Merci Aurélie. On a souvent réduit la nouvelle naissance à une petite prière récitée, cette fameuse prière qu'on appelle la prière du salut, qu'on ne trouve pas réellement dans la Bible, mais bon, on applique ce que dit Romain, de croire dans son cœur et de confesser de sa bouche. Donc, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais le problème, c'est qu'on dit aux gens, ben, en fait, voilà, si tu récites cette prière, voilà, tu seras sauvé.
C'est ça.
Mais en fait, la prière en elle-même, les mots en eux-mêmes n'ont pas de poids s'il n'y a pas justement un engagement derrière cette parole, une réelle prise de conscience, une réelle repentance. Il y a quelque chose qui doit se passer. Quand on dit donner sa vie à Jésus, c'est donner. Moi, si je te dis, je ne sais pas Aurélie, je te donne ma tasse, ben, je ne te donne pas juste un petit bout, puis tu ne peux pas boire dedans. Non, je te la donne entièrement, elle t'appartient, elle est à toi, et tu en fais ce que tu veux. Si tu veux la remplir avec du thé ou du café, c'est ton problème. Je ne vais plus venir te dire non, mets juste de l'eau dedans, parce que je te l'ai donné.
C'est
un mini-exemple que je donne là, mais en gros, c'est important de comprendre que donner sa vie à Jésus, c'est lui dire, à partir de maintenant, ma vie ne m'appartient plus. Donc, Seigneur Jésus, fais ce que tu veux. Tu me dis d'aller à droite, je vais à droite. Tu me dis d'aller à gauche, je vais à gauche. Tu me dis de dire telle chose, je dis telle chose. Et c'est ça, c'est ses premiers pas. C'est pour ça qu'on appelle ça une nouvelle naissance. C'est ses premiers pas, tout comme un enfant à qui on va enseigner les béabas de la vie. On va lui apprendre à marcher, on va lui apprendre à parler, on va lui apprendre à partager, on va lui apprendre à être généreux, on va lui apprendre des choses. Et bien, c'est cette marche qui commence avec Dieu où on abandonne complètement notre vie entre ses mains. En fait.
Tu as raison.
Ben, tu veux okay, bon.
Plusieurs ne vous battez pas, les amis, ne vous battez pas.
Non, je vois qu'Aurélie...
Aurélie a des listes.
Est remplie.
Aurélie, une chose. Vas-y, déverse, Aurélie.
En fait, je te rejoins complètement parce que plusieurs personnes, déjà, croient deux choses, qu'il s'agit juste de répéter la prière, et d'autres personnes croient qu'il s'agit... que c'est comme une amélioration de l'ancienne vie que tu menais avant de donner ta vie à Christ. Mais la vérité, c'est que la parole de Dieu, en fait, nous dit que Jésus devient ton Seigneur, il devient ton Sauveur. Et ça, le mot Seigneur, beaucoup de gens ont du mal avec ça.
Exact.
Parce qu'il y a quand même une notion de dépendance derrière. Et quand on parle déjà de dépendance à Dieu, vu que jusqu'à présent, personne n'a donné sa vie à Christ étant bébé quand il est sorti dans le ventre de sa mère. Mais jusqu'à présent, les gens ont été habitués à vivre un certain style de vie. Et la notion de dépendance fait en sorte que tu dois désapprendre tout ce que tu as appris jusque-là. Et tu dois comme recommencer à zéro, tu parlais du bébé tout à l'heure. Tu dois recommencer avec des bases qui te viennent de Dieu. Et plus ce que ton âme a emmagasiné tout au long de ces années avant que tu ne donnes ta vie au Seigneur. Et c'est souvent ça qui est difficile. C'est que les gens veulent continuer à vivre la vie qu'ils ont vécue jusque-là, mais en ayant juste Jésus comme un plus, comme ça fait partie du package et tout. Mais ici, il s'agit de dire non. Si j'ai donné ma vie à Christ, ben, j'ai souvent l'habitude de dire, Aurélie, tu dois dire non à Aurélie. Tu dois apprendre à faire ça. Il faut que là où tu avais cette tendance à peut-être vouloir marcher par la chair, à faire les choses qui ne correspondent pas à la volonté de Dieu, il faut que dès l'instant où cette pensée vienne, tu puisses dire non. Je choisis de faire ce que Christ aurait fait. Mais pour ça, ça prend connaître la volonté de Dieu. Ouais. Ça prend une discipline au niveau de la vie chrétienne, la méditation de la Bible et tout. Parce que c'est comme ça qu'on est renouvelé et c'est comme ça qu'on peut vivre cette nouvelle naissance.
Exact. Ça va peut-être choquer ce que je vais dire, mais je crois réellement que la méthode qu'on emploie, trop classique, de justement juste faire répéter une petite prière, a fait des fausses conversions. Et vraiment, c'est extrêmement important, parce que dès le moment où on fait répéter la prière à quelqu'un, j'ai entendu des fois des histoires, des personnes qui avaient plus ou moins envie, mais qui ont dit « bon, ben, ok, je veux bien la faire, ta prière, si tu veux, et après tu me laisses tranquille. » Et voilà, maintenant que tu as fait cette prière, gloire à Dieu, tu es au ciel, tu es sauvé, mais c'est plus que ça en fait. Il y a la notion d'engagement, il y a la notion de renoncement dont tu parleras tout à l'heure, de vraiment se donner entièrement à Dieu et de plus rien garder pour soi. Et il faut vraiment faire attention. Je ne dis pas qu'il faut arrêter les appels au salut et la prière du salut. Je n'ai absolument pas dit ça, qu'on ne mette pas ça dans ma bouche.
Mais il faut s'assurer que les gens comprennent même déjà ce que ça signifie.
C'est ça. C'est ça. C'est qu'il y a, il y a réellement cette notion d'engagement dont tu parles. Et ce n'est pas un jeu, en fait. Ce n'est pas juste une formule magique qu'il suffit de réciter, puis pouf, il se passe quelque chose. Il y a quelque chose de vraiment beaucoup plus fort derrière. Mm-hmm. Je suis sûre que Yanis a déjà envie de faire sa réponse d'expert
pour parler du sujet. J'écoute un petit peu ce que vous partagez. C'est plein de belles vérités. Je pense que devenir chrétien, ce n'est pas un effet de mode. Il y a beaucoup de personnes qui le sont parce qu'ils sont nés dans une famille chrétienne, donc qui suivent un peu le mouvement. Mm-hmm. Ou alors quand on voit des stars, je ne vais pas citer les noms, qui tout à coup donnent leur vie à Jésus-Christ, un effet de mode. C'est beaucoup plus que ça. Le résultat, on le voit, il est probant.
Ouais.
C'est qu'on a des chrétiens, mais on n'a pas de croyants. On a des gens qui croient en Dieu, mais qui ne croient pas en lui. Je m'explique. Tu peux croire en Dieu sans croire en lui. Pourquoi ? Parce que quand tu t'engages avec Dieu, quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ et que tu ouvres la Bible, eh bien, la Bible te montre également les engagements de Dieu vis-à-vis de toi. Et quand tu crois en Dieu, mais que tu ne crois pas en lui, eh bien, c'est un jour, tu as dit, oui, Seigneur, je t'accepte, etc. Tu crois en l'existence de Dieu, tu crois que Dieu a mis le soleil, la lune, les étoiles en place. Mais par contre, tu ne crois pas que Dieu puisse agir dans ta vie. Tu ne t'appropries pas les paroles de Dieu parce que tu n'es pas engagé avec Dieu. Et quand tu es engagé avec Dieu, tu comprends la parole de Dieu. Tu comprends qu'au travers de sa parole, Dieu s'engage. Dieu prête serment. Et la parole de Dieu, elle est irrévocable. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a beaucoup de chrétiens frustrés, beaucoup de chrétiens qui ne sont pas épanouis, beaucoup de chrétiens qui ne portent pas de fruits. Beaucoup de chrétiens qui sont juste chrétiens de nom. Ils ont fait de Jésus-Christ leur sauveur, mais pas leur Seigneur,
c'est
comme
ça.
Tu le disais. Et ça, c'est juste passer à côté d'une multitude de bénédictions.
Oui, effectivement, parce que beaucoup de gens aussi, par rapport à ce que tu dis, Yanis, voient le côté contraignant, parce qu'ils ne connaissent pas Dieu, les engagements de Dieu, comme tu appelles. Mais quand tu sais que tu as confié ta vie, il est devenu le propriétaire de ta vie, mais ça devrait te réjouir, en fait. T'es gagnant à 10 000 %.
Amen.
Et il y a des gens comme ça, que parce qu'ils n'arrivent pas à le réaliser, ils n'arrivent pas non plus à s'engager. Parce que dès l'instant où je prends, par exemple, le cas de, je ne sais pas, un problème financier. Si un problème financier vient frapper à ta porte, tellement tu n'es pas engagé, tu as juste accepté le Seigneur comme ça, que tu n'auras même pas la force de te tenir face à ça en disant, regarde, moi, ayant accepté le Seigneur Jésus, je sais qu'il s'est fait pauvre pour que je sois enrichi à divers niveaux, y compris au niveau de mes finances. Donc, je me lève pour ça parce que ma vie ne m'appartient plus, ça appartient à lui.
Ouais.
Donc, ce positionnement est tellement important. Quand tu n'as pas ce positionnement, soit tu attends que tout te tombe dessus, et parfois, il a parlé des chrétiens frustrés, c'est comme ça qu'on ne voit pas de résultats, tout simplement parce que ton cœur n'est pas engagé. Pour moi, un cœur engagé, c'est vraiment un cœur que, dès que j'ai dit oui à tout. J'ai dit oui à tout ce qui s'est passé à la croix pour moi. J'ai dit oui à tout ce qui est dans la Bible que le Seigneur veut pour moi. J'ai aussi dit oui à tout ce que je dois faire, à tous les sacrifices que je dois consentir. Et c'est ce qu'on voit avec les disciples. C'est que quand ils ont dit oui, ils étaient même prêts à mourir, en fait. Et c'est ce oui qui manque souvent aujourd'hui. C'est peu importe les défis. Si quelqu'un vient me charrier, j'ai envie de dire, sur ma foi chrétienne, je dois être capable de me tenir devant cette personne et ne pas avoir honte. Parce que j'ai dit oui. Et c'est ce oui qu'on recherche. Ce n'est pas un oui juste, ah ok, je veux bien et tout. Mais c'est le oui qui prend tout. Je prends tout ce qui est bon, je prends tout ce qui me paraît moins bon, mais avec Dieu, tout est bon en fait. Même les choses qui nous paraissent contraignantes, c'est pour notre bien.
Ouais.
Donc c'est ce oui qu'il faut pour parler de nouvelle naissance.
Ouais. En fait, la nouvelle naissance est entièrement gratuite. Elle ne nous coûte rien, mais en fait, elle nous coûte toute notre vie. C'est un espèce de paradoxe, mais elle va nous coûter littéralement toute notre vie.
Ouais.
Est-ce qu'on est prêt vraiment à tout abandonner ? Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus lui-même qui l'a dit. On va aller voir dans la Bible notre verset du jour. Marc 8, au verset 34, Jésus a dit, donc, puis il appela la foule, donc Jésus, avec ses disciples, et leur dit, « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Et j'ai envie de continuer parce qu'au verset 35, Jésus complète et il donne des éléments supplémentaires. Il dit « Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. » Ça paraît complètement paradoxal. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme ? Jésus explique ici que si on veut garder notre vie, sauver notre vie, la conserver pour nous-mêmes, parce que pensant que nos propres choix, nos propres décisions sont meilleures pour nous et que ce qu'on avait planifié, nos rêves, nos projets, tout notre idéal de vie sont meilleurs pour nous, on veut sauver notre vie, on veut la garder, bien en fait, on va la perdre. Et ça paraît fou, tu veux sauver ta vie, tu la perds, et si tu veux la perdre, tu la sauves. C'est ça, c'est la folie de l'évangile. Mais en fait, c'est parce qu'on la confie à celui qui est le maître et qui connaît parfaitement tout ce qu'il y a de mieux, le meilleur pour notre vie, tous ses plans, c'est en lui. Seul, on ne les accomplit pas, en lui, on les accomplit.
Une prédicatrice est née. Mais je tenais juste à ajouter un point important. Aurélie, tu parlais de contraintes. Et puis, quand tu évoques ce texte, sous le regard humain, on peut trouver ça
contraignant.
Ouais. Contraignant. Mm-hmm. Mais c'est parce qu'on ne connaît pas le cœur de Dieu.
C'est ça.
Parce qu'en fait, il y a aussi l'héritage, il faut le dire, l'héritage qu'on a de ce monde, de la religion. Mm-hmm. La religion est pesante. Et les gens pensent que donner sa vie à Jésus-Christ, c'est entrer dans des rites pas possibles. Ouais. Aller 10 fois à l'église, c'est pas ce qui a marqué là. Faire des jeûnes multiples, c'est se contraindre, c'est s'enfermer, se déconnecter de la société, c'est ne plus vivre finalement. Ça, c'est une mauvaise interprétation. Mmh, pourquoi? Ouais. Parce que Dieu, depuis la Genèse, n'a pas créé l'homme pour la religion. Il a créé l'homme pour être en communion avec lui.
Amen.
Il a créé l'homme pour être en communion avec lui. Et Dieu ne nous demande pas d'être religieux. La religion, ça blanchit l'extérieur, mais ça ne change pas le cœur de l'homme. Dieu nous demande d'être en communion avec lui. Et quand tu comprends à quel point Dieu est bon, quand tu comprends que finalement tout ce que Dieu te dit dans sa parole, c'est bénéfique pour toi, et il y aura des retombées pour ta famille, et ça te permettra de t'épanouir dans chaque aspect de la vie. Quand tu comprends toutes les richesses, les vérités, qui émane de la parole de Dieu, alors ce n'est plus une contrainte pour toi de suivre Jésus. Tu réalises que finalement, la Bible, la parole de Dieu, c'est ton GPS spirituel, ta boussole qui te garde, qui te préserve en vie et qui va te mener au bout dans le royaume de Dieu.
Et c'est ça la vraie liberté d'ailleurs. C'est ça la vraie liberté parce qu'il y a des gens qui, le côté contraignant, ils ont peur de perdre leur liberté de faire des choses.
Ouais.
Mais la vraie liberté, c'est ça.
Amen.
C'est d'accepter de reposer pleinement en Jésus-Christ.
Exact. Et on va voir maintenant avec toi, Yanis, dans notre rubrique réponse d'expert, on va voir ce que signifie le renoncement dont j'ai parlé dans le verset du jour. On enchaîne tout de suite. Donc Yanis, que signifie renoncer à sa vie et suivre Jésus selon Matthieu 16, 24 ? On t'écoute.
Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Waouh, ça c'est une déclaration. Dans le dictionnaire, le renoncement, c'est action de renoncer à quelque chose, de cesser de rechercher ce à quoi on tenait. Et j'aimerais quand même dire, avant de développer un peu cette idée, c'est que quand on regarde les Écritures, quand on regarde toutes ces personnes que Dieu a utilisées dans l'Ancien Testament, ils avaient tous un point commun. En fait, ils ont tout sacrifié. Ils étaient passionnés par Dieu et ils ont tout donné jusqu'à leur vie pour être utiles entre les mains de Dieu. Et je crois qu'aujourd'hui encore, Dieu cherche des gens qui sont prêts à tout sacrifier, renoncer à tout. Le Seigneur compose toujours avec des personnes qui se livrent totalement entre ses mains. C'est tellement important. Le renoncement, c'est une question de choix, de décision. Nul ne peut servir de maître. Car où il va haïr l'un, où il aimera l'autre. Où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Matthieu 6, verset 24. On ne peut pas servir Dieu en faisant des compromis. On ne peut pas s'attacher à Dieu et puis s'attacher au monde. Ce n'est pas possible. Soit on s'attache à Dieu, soit on est attaché au monde et avec tout ce que ça implique. Mais la réalité, c'est que lorsque Dieu nous demande de renoncer aux choses qui paraissent parfois attrayantes de ce monde, c'est pour nous préserver, c'est pour nous utiliser. Et forcément, oui, il y a un coût. Et dans Luc 14, verset 33, il est dit « Ainsi donc, celui d'entre vous qui ne renoncera pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. » Il y a plein, on arrive dans la vie, plus on va grandir, plus on va avoir des possessions, des ambitions, des rêves, des projets. On va construire des choses et parfois même ce sont des choses légitimes. Et quand Dieu entre en scène, quand Dieu nous demande de faire des choix, parfois ces choix vont à l'encontre de ce que nous souhaitons. Parfois, nous ne comprenons pas les vérités que renferme la parole de Dieu. C'est vrai, moi, j'ai commencé à servir le Seigneur et je me disais, je veux construire telle chose. J'aimerais amener à maturité tel projet. Puis ce projet me permettra de vivre correctement. Et puis, Dieu entre en scène et Dieu me dit, Yanis, faut abandonner tes projets. Oui, mais comment je vais faire? Faut que tu me suives. Oui, mais j'ai besoin d'argent. Faut que ma famille vive. Il y a plein de questions, il y a plein de... Mais je ne comprends pas pourquoi. Alors, ce que je veux mettre en place, c'est... Ça va être bénéfique pour ma famille, mais je pourrais également te servir avec ça. Mais en fait, il y a une chose qui, derrière ça, est importante de comprendre, c'est que quand Dieu entre dans une vie, il veut être le Seigneur Amen. De ta vie. Oui. Il veut que son nom et son nom seul soient glorifiés au travers de tout ce qu'il va faire dans ta vie. Quand on parle d'Abraham, par exemple, Abraham, c'est le père de la foi. Mais on voit qu'il y a des choses qu'Abraham n'a pas compris tout de suite. En fait, la foi d'Abraham est arrivée à maturité au moment où Dieu va lui demander son fils. Par contre, au début, lui, quitte ton père, quitte ta mère, quitte ta patrie, suis-moi. Et puis, Abraham va faire des erreurs. Mais au travers de ses erreurs, il va apprendre à connaître le cœur de son berger. Et lorsque Dieu lui demande de lui offrir son fils, Isaac, en fait, Isaac représente beaucoup de choses. Parce que c'est le fils de la promesse. C'est au travers d'Isaac qu'Abraham va avoir une postérité. Pour Abraham, Isaac, c'est tout. Mm-hmm. Et ce Isaac, pour toi, ça peut représenter ton rêve. Ce Isaac, pour toi, c'est peut-être ton compte en banque. Ce Isaac, pour toi, c'est peut-être une carrière. Ce Isaac, pour toi, c'est peut-être le projet d'aller dans un autre pays. Ce Isaac, pour toi, c'est peut-être ta vie. Et puis, on voit que, finalement, lorsque Dieu lui lance ce défi, sa foi arrive à son apogée, à son paroxysme. Il va dire à ses serviteurs, « Attendez, nous allons monter, nous allons adorer et nous allons revenir. » Alors que Dieu lui avait dit, « Monte en haut et puis offre-moi ton fils. » Il dit à ses serviteurs, « Nous allons monter et nous allons revenir. » Pourquoi il dit ça? Parce qu'à cet instant, Abraham était convaincu que même s'il offrait son fils en sacrifice, Dieu était assez puissant pour le ramener à la vie, Amen. Pour le ressusciter. Alors, ce que je suis en train de dire, c'est que même si parfois tu as l'impression de renoncer à quelque chose, dans la main de Dieu, il n'y a rien qui meurt. Il n'y a rien qui meurt dans la main de Dieu. Certes, le sacrifice peut avoir un coût à tes yeux, mais ce que Dieu va te donner va au-delà de ce coût. Dieu sera te donner au-delà, bien plus que ce que tu vas lui donner. Et c'est tellement beau de voir une personne qui marche avec Dieu et qui a renoncé à tout. Il arrête de discuter, de tergiverser quand Dieu lui demande quelque chose. C'est une évidence. Aujourd'hui, on parle de dîmes, on est en train de convaincre des chrétiens de semer dans le royaume de Dieu, de semer pour la promulgation de l'évangile, de semer pour que des églises prennent place. On en est encore là. Mais si on est encore en train de discuter, à savoir, est-ce qu'on doit donner 10%, est-ce qu'on doit donner 20%, ça veut dire que nous sommes encore des bébés spirituels. Parce que ce n'est même pas une question d'hymne, c'est une question d'appartenance. Si j'appartiens à Dieu, alors tout ce que j'ai appartient à Dieu. Tout ce que j'ai, eh bien, Dieu l'utilise comme il le veut. C'est tellement important et c'est tellement beau de voir que ce que Dieu nous demande de faire, c'est juste bénéfique pour nous. Alors, dans ce monde, on est confronté à pas mal de directives. Par exemple, l'homme avide de plaisir va dire aux gens, mais amusez-vous. Le professeur va dire à ses élèves, instruisez-vous. L'artiste dira, exprimez-vous. Le philosophe va dire, connais-toi toi-même. Mais Jésus-Christ, lui, dit, renonce à toi-même. Renonce à toi-même. Alors, dans Romains 12, verset 1, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, sain et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Un renoncement total implique une soumission totale, sans compromis. Oui. Il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de cohabitation. Le monde et le Saint-Esprit ne peuvent pas coexister en nous. Ce n'est pas possible. Jésus-Christ n'est pas venu cohabiter avec notre personne, notre chair. Il est venu crucifier notre chair. Crucifier notre chair. Il est venu tuer notre chair et ses désirs, parce que c'est incompatible. Et lorsque tu reçois la parole de Dieu dans la chair, tu ne peux pas comprendre cette parole. Tu ne peux pas comprendre le principe du sacrifice, du renoncement. Ce n'est pas possible. Voilà pourquoi nous sommes appelés à recevoir et à concevoir la parole de Dieu avec l'Esprit de Dieu qui nous enseigne et qui nous guide. Et c'est tellement beau de voir aussi que finalement, quand nous marchons avec Dieu, notre vie est belle, notre vie porte du fruit digne de Dieu. Et quand nous allons arriver au bout, à la fin de notre parcours, de notre pèlerinage, nous pourrons dire, comme Paul, « J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. » Tout au long de notre vie, nous sommes appelés à faire des introspections pour voir si finalement c'est moi ou c'est Christ qui vit en moi. Voilà pourquoi il est important que chaque jour, nous puissions nous mettre devant Dieu, nous examiner. Quand tu lis la Bible te lit, la Bible te voit, la Bible te regarde. La parole de Dieu, elle vient là nous révéler tout ce qui ne va pas. Alors c'est une question importante. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez dire comme Paul, j'ai été crucifié ? C'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. J'ai été crucifié avec Christ parce que là est notre destinée finalement.
Ouais.
Notre destinée est dans la main de Dieu et nous sommes chaque jour appelés à nous offrir comme des sacrifices vivants. Et ça, ça sera un culte raisonnable, sain et agréable pour le Seigneur.
Amen. Merci Yanis. Ah, il y en a qui sont en train de se dire, aïe, 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 j'ai des Isaac dans ma vie, j'ai des Isaac. Et j'ai même envie de compléter ta liste de Isaac pour aider nos amis à la maison. Isaac, ça peut être une relation, un petit copain, une petite copine. Ça peut être même des fois des amitiés. Les Isaac, ça peut être, oui, tu as parlé des rêves, tu as parlé des projets. Ça peut être vraiment une destinée qui est déjà toute tracée. Il y a vraiment des choses auxquelles nous devons renoncer pour que le plan de Dieu puisse s'accomplir pleinement en nous. Et chacun d'entre nous, quand on a décidé de suivre le Seigneur, on a renoncé à des choses et c'est tous différent. Tu ne peux pas prendre le modèle de un et l'appliquer sur ta vie, c'est tous différent. Mais on a tous, nous trois autour de cette table, en tête des choses auxquelles on a dû renoncer, des choses plus ou moins difficiles à lâcher. Parfois, il y en a une qui a été plus longue à lâcher, on s'est accroché après parce qu'on a dit « Ah, je vais y arriver, c'est compatible », mais ce n'est pas compatible. Et vous savez très bien, pendant cette émission, le Saint-Esprit est venu appuyer là où ça dérange un peu parce que vous savez que vous devez renoncer à cette chose, vous devez renoncer à cette personne. Mais aujourd'hui, prenez la décision de donner entièrement votre vie à Jésus-Christ, qu'il soit le Seigneur et le Sauveur de votre vie. C'est notre prière et c'est notre désir. Merci beaucoup Yanis. Tu es avec nous demain encore. On va continuer cette mini-série qu'on a commencée aujourd'hui. On va parler de se laisser transformer par Christ. Parce que la nouvelle naissance implique une transformation immédiate, mais aussi qui va se continuer dans les mois, dans les années à venir, jusqu'à ce qu'on aille le rejoindre. Et tu feras une rubrique Conseil du coach, comment devenir un homme nouveau. On se retrouve demain. Merci d'avoir été avec nous et bonjour chez vous.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs d'EMCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Bonjour chez vous sur emcitv.com.